Bonjour et bienvenue à vous tous, fidèles amis, qui nous retrouvez régulièrement tous les dimanches matins. Et nous retrouvons aussi Monseigneur Calvé. Monseigneur, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez déjà évoqué avec nous vos premières visites à Rome. Très jeune évêque, avide de découvertes, de rencontres et de conseils. Aujourd'hui, nous souhaiterions approfondir ce sujet avec vous pour que vous nous parliez de vos échanges avec Saint Jean-Paul II, notre regretté pape, et également que vous nous expliquiez ce qu'est une visite ad limina.
Alors, les évêques en charge d'un diocèse sont invités en groupe à se rendre à Rome régulièrement. Pratiquement, c'est tous les 5 ans, quelquefois les dates sont un petit peu décalées, 6 ans, 7 ans, pour ce qu'on appelle la visite ad limina. En latin, ad limina apostolorum, ça veut dire une visite comme un pèlerinage au tombeau des apôtres. Les apôtres en question, c'est les apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul. Et un des points essentiels de cette visite ad limina, que tous les évêques de la CEPAC font ensemble, c'est d'aller prier comme un pèlerinage dans la basilique Saint-Pierre, sur le tombeau de l'apôtre Pierre, où nous célébrons la messe, et également la tombe de Saint-Paul, à Saint-Paul hors les murs. Donc ça, c'est l'aspect pèlerinage. Les évêques prient pour leur diocèse, pour leur diocésain. Les évêques vont rencontrer celui qui est à la tête du collège des apôtres, c'est-à-dire le successeur de Pierre. Et donc, le deuxième temps important, eh bien, c'est la rencontre, ou plusieurs rencontres, avec le pape. Donc mes premières visites ad limina, j'en ai fait je crois 8 au total, c'était donc avec le pape Jean-Paul II, et le pape avait institué quelque chose qui était très apprécié, c'était une rencontre à plusieurs reprises, c'est-à-dire un temps de prière avec lui. On le rejoignait le matin assez tôt à Saint-Pierre, dans la chapelle de son appartement, pour qu'on célébrait la messe du jour avec lui. Et puis, ensuite, il y avait un temps de rencontre, toute la conférence. Et donc, tous les membres de la conférence, eh bien, rencontraient ensemble le pape. Généralement, le président de la conférence lui adressait la parole pour présenter la CEPAC. Et puis ensuite, chacun pouvait prendre la parole et le pape s'exprimait comme il le souhaitait. Il n'y a pas d'ordre du jour. Et donc, c'est quelque chose qui permet une expression très libre. Il y a un autre temps qui est également très apprécié, c'est une audience individuelle sans témoin. Et donc, le pape reçoit chaque membre de la conférence, chaque responsable d'un diocèse, pendant pas très longtemps, mais sans témoin, sans ordre du jour. Et ça permet d'aborder les questions que l'on souhaite librement avec lui, généralement. Le pape accueille dans sa bibliothèque et il a sous les yeux l'atlas. Et donc, il avait son atlas ouvert à la carte du Pacifique et demandant « Mais où se trouve donc votre diocèse ?» Et on lui montrait des îles qui lui semblaient toutes petites. Mais on pouvait lui dire que dans le Pacifique, si les îles sont petites, les kilomètres qui les séparent sont comme tous les autres kilomètres et qui sont particulièrement nombreux. Et donc, c'est un moment important de la visite ad limina. Et puis, le pape Jean-Paul II avait instauré une coutume également qui était de recevoir, quand il le pouvait, les évêques à sa table. Et donc en fin de matinée, quand il avait terminé tous ses rendez-vous, pour lui c'était un peu comme une récréation, il invitait donc l'ensemble des évêques de la conférence, lui est accompagné par un ou deux de ses secrétaires, et il présidait la table, s'adressant aux uns et aux autres. Donc, mes premières rencontres avec le pape lors d'un repas, c'était le président qui était anglophone, et donc le pape a commencé à parler en anglais. Puis après, j'ai fait signe à Mgr Copenrath, on continue en français. Et le pape a continué à parler en français. Le changement, pour lui, ne faisait aucune difficulté.
Oui, alors justement, à travers ce que vous nous racontez, ces rencontres dans des conditions assez diverses, quelle est l'impression que vous avez ressentie de sa personnalité ?
Une personnalité qui était tout à fait impressionnante. Alors, la première chose, c'est sa faculté de passer d'une langue à l'autre, de passer d'un problème à un autre avec une facilité déconcertante, parce que nous le voyons qui venait de recevoir un chef d'État, et qui ensuite s'intéressait à la pastorale d'un petit diocèse insulaire du Pacifique. Donc c'était assez impressionnant de le voir faire de cette manière, et également s'intéressant à tous les problèmes de l'évolution du monde, de l'évolution de la pastorale. À plusieurs reprises, on lui avait parlé, entre autres, des catéchistes, qui pour nous ont de l'importance. Et cela avait retenu son attention.
Vous nous avez dit qu'il avait instauré plusieurs choses qui étaient assez nouvelles. Et est-ce que c'est lui qui a instauré les six différents synodes sur les différentes parties du monde ?
Les synodes, c'est quelque chose qui date aussi du Concile Vatican II. Hein. Mais dans la visite à Limina, non seulement on rencontrait le pape, mais on rencontrait aussi les dicastères romains, c'est-à-dire les ministères, si l'on veut, du gouvernement central de l'Église, y compris celui qui est directement responsable de la gestion des diocèses de nos régions, c'est-à-dire la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, dont le préfet, celui que j'ai le mieux connu, c'était le cardinal Tomko, pendant des années et des années, un homme qui parlait lui aussi une variété de langues, ce qui était plus facile, et qui était attentif aux diocèses d'Afrique, aux diocèses d'Amérique du Sud, aux diocèses d'Asie, et également attentif aux diocèses de l'Océanie. Et puis ses collaborateurs, parce que bien sûr, dans ces grands services, eh bien, il y a l'un ou l'autre, comme on dit, des minutante, c'est-à-dire des collaborateurs de la congrégation qui sont chargés d'un secteur géographique. Et donc nous avions un ou deux minutante qui étaient spécialisés sur les affaires d'Océanie et qui étaient capables. Alors eux avaient lu avec soin les rapports que nous avions faits pour la visite à Limina, puisque ça fait partie aussi de la visite à Limina, que le responsable d'un diocèse prévoit la rédaction d'un rapport suivant un plan prédéterminé qui doit aborder tous les aspects de la vie du diocèse et qui doit être remis plusieurs mois à l'avance et qui est donc transmis par le délégué apostolique, par le nonce, et avec ses observations, avec ses questions, et le tout est transmis à Rome. Cela permet d'alimenter l'échange avec non seulement le pape, mais surtout avec les membres des congrégations. Alors, avec les membres des autres congrégations, on avait aussi un certain nombre de rencontres, mais beaucoup plus rapides. Des congrégations quand même importantes, comme la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, sur les questions de liturgie, la congrégation pour la doctrine de la foi, pour les questions difficiles quelquefois à traiter. Et tous nous ont reçus, évidemment, il y avait aussi les gens qui s'occupaient des médias, les gens qui s'occupaient de l'entraide, c'est-à-dire supervisant avec Corunum, des choses comme Secours catholique, Caritas Internationalis, tous ces organismes qui pour nous avaient non seulement de l'importance, mais également étaient des organismes qui nous connaissaient bien parce qu'ils nous donnaient souvent la main, en particulier en cas de difficulté.
Juste avant de terminer, est-ce que vous pouvez évoquer pour nous une question très spécifique du Pacifique ? Parce que chaque partie du monde a ses spécificités.
Alors, il y a la question culturelle qui est extrêmement forte. Et une des questions que nous avons eu à traiter, d'abord en conférence, ensuite à Rome, c'est la question à la fois de la créativité dans le domaine culturel et liturgique, mais en même temps de la nécessité de prévoir que l'on reste dans le cadre de la liturgie de l'Église. Et alors on avait des choses qui étaient tout à fait caractéristiques, et je me souviens des discussions et d'échanges qui ont été remplis ensuite de résultats et de succès, avec des gens comme le cardinal Pio Taofinu, avec Monseigneur Finaou, l'évêque de Tonga, avec l'archevêque de Suva, avec Mgr Michel Copenrad de Tahiti, sur la liturgie, les traductions, les applications d'un certain nombre de choses, d'expressions habituelles dans le Pacifique, dans le cadre de la liturgie. Toutefois, en ne dépassant pas ce qui était la liturgie elle-même, c'est-à-dire que la liturgie ne devienne pas un prétexte à exprimer une particularité culturelle, parce que ce n'est pas son but.
Eh bien, Monseigneur, merci beaucoup. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette spécificité du Pacifique en parlant du synode sur l'Océanie. Et nous vous remercions d'avoir été avec nous ce matin et nous souhaitons vous retrouver très bientôt. Merci aussi à vous, amis auditeurs. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain et vous souhaitons un très bon dimanche et une très bonne semaine.